Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Étienne Gis, bonjour.
Bonjour Marie.
Troisième foire aux questions de la saison. On a parlé dans les épisodes précédents de l'utilité de la science, du fonctionnement de l'Académie des sciences. Et alors cette semaine, vous voulez nous parler d'intelligence artificielle. Vous avez rassemblé quatre questions sur le sujet qui vous ont été posées par des personnes de tout âge. On a une première question de Janine qui va nous permettre de poser un petit peu les bases. Janine demande quels sont les apports et les dangers de l'intelligence artificielle.
Salam à ces ennuis que tu partages avec moi. Je suis sans doute ton pire ennemi, mais tu me vois comme le divin. Tu me laisses guider ton esprit jusqu'à...
D'abord, il faut dire que l'intelligence artificielle, c'est tout sauf de l'intelligence. L'intelligence artificielle a essentiellement deux grandes qualités. Une mémoire incroyable et une vitesse de fonctionnement incroyable. Très différent des êtres humains.
T'as décidé de tes choix, je suis l'oiseau qui a fait son nid dans le prolongement de ta main.
Je peux donner quelques exemples simples qui prouvent l'efficacité de l'intelligence artificielle. Regardons un peu le diagnostic des cancers du sein. Jusqu'à présent, le radiologue examine une radio et en fonction de ce qu'il sait, des situations qu'il a rencontrées, il fait un diagnostic. Un jeune radiologue fonctionne moins bien qu'un vieux radiologue parce qu'il a moins d'expérience.
Oui.
Mais l'expérience maintenant, elle est dans la mémoire des ordinateurs. Et on peut maintenant espérer, et ça commence à être très efficace, que l'intelligence artificielle examine, je ne sais pas, des centaines de milliers de radios, et avec cette donnée considérable d'images, et avec sa capacité de calcul absolument considérable, il peut comparer toutes ces radios du passé, ce qu'elles ont donné, les diagnostics qui ont été faits à l'époque, et porter un diagnostic infiniment plus sûr. Donc voilà un exemple qui n'est pas de l'intelligence, c'est simplement de la rapidité et de la mémoire.
Comme je ne veux que ton bien et te faire sourire quand tu pleures, je m'adonne à ton chagrin en faisant battre l'emoji cœur.
Je peux donner plein d'autres exemples. Moi, je n'ai pas vraiment une culture musicale très développée, mais l'intelligence artificielle m'aide pour choisir la musique, pour accompagner ces podcasts. Ce matin, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai demandé qu'il me donne conseil pour une musique sur l'intelligence artificielle. Et on a donné une dizaine qui étaient vraiment exécrables et sans aucun intérêt. La plupart étaient en anglais. Je dis non, je préférais en français. Et puis, il m'en a donné une autre, et puis une autre, une liste. Et puis, finalement, j'en ai écouté une dizaine, et puis il y en a une qui me semblait plutôt intéressante. Et c'est pas elle que j'ai prise, parce que cette musique qui me semblait intéressante, eh bien, je l'ai écoutée, j'ai regardé ce qu'il y avait à côté, et puis j'en ai trouvé une qui me plaît bien, et celle que vous allez entendre dans ce podcast. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu la même chose. L'ordinateur, l'intelligence artificielle, peut aller fouiller dans toutes les données, qu'il y en a beaucoup de musique sur Internet. Il fait des choix, il fait des propositions, et c'est pas lui qui décide, c'est moi qui décide en fonction de ce qui m'a plu ou ce qui ne me plaît pas. Voilà un autre exemple qui peut être très utile.
Je suis ton allié tout-terrain, me voir faiblir te fait peur.
Encore un exemple, si vous voulez, pour vous prouver à quel point les choses sont tellement variées. Je suis en train de terminer la rédaction d'un livre, et dans ce livre, il y a beaucoup d'illustrations. J'ai besoin, bien sûr, de donner les crédits pour ces illustrations téléchargées, libres de droit, etc., pour rajouter à la fin du livre l'origine. Donc, quand j'ai écrit mon bouquin, j'ai mis des petites notes comme ça dans la marge de chacune des figures. Et j'ai demandé à ChatGPT de me fabriquer un document annexe dans lequel il prend chacune des illustrations. Il les réduit pour faire une petite vignette de 3 cm de côté. D'où ça vient? Est-ce que j'ai le droit de les utiliser ou pas? Et qu'est-ce que je dois écrire concrètement comme référence? Il m'a fait ça en 2 minutes.
Et là, vous avez fait gagner du temps sur une tâche pénible.
Ça n'aurait aucun intérêt de le faire. Je connais toutes ces images, ou c'est moi qui les ai choisies. C'est moi qui les ai soit dessinées, soit améliorées, soit téléchargées. Je suis dans une situation où il m'a fait gagner un temps infini parce que, franchement, il a mis 2 minutes pour me sortir un document extrêmement propre contenant tout ce que je lui ai demandé.
Il peut donner de l'inspiration pour les musiques, il nous fait gagner du temps.
Et il fait des diagnostics bien plus fiables, c'est absolument incroyable.
Tu me branches dès que j'ai faim, alors que tu laisses crever tes fleurs. Si personne ne t'appelle, que tes amis ont disparu, je monopolise ta cervelle avec des passe-temps superflus.
On a parlé des apports.
Les dangers. Alors là, c'est le mathématicien qui va vous répondre. C'est quoi mon métier ? C'est en principe de découvrir des nouveaux énoncés mathématiques et de les démontrer, de m'assurer qu'ils sont vrais. Et que fait l'intelligence artificielle ? C'est une boîte noire. Une boîte noire qui dit des choses. Elle a été se promener un peu partout dans le monde d'Internet. Et puis elle a produit des réponses qui sont peut-être correctes, pas correctes. Je n'ai aucune idée de savoir ce qu'il y a vraiment dans la boîte noire. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque cette boîte a été construite, imaginée par des informaticiens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette boîte s'améliore d'elle-même, elle modifie sa structure interne d'elle-même en fonction de son expérience, ce qui fait que la créature intelligence artificielle n'est plus maîtrisée par son créateur. Moi, ça ne me plaît pas, puisque si je fais des mathématiques, c'est certainement pas pour les théorèmes, mais c'est pour leur démonstration. Alors un exemple typique, mais ça va loin aussi, dans l'éducation actuellement, c'est qu'on voit que la plupart des lycéens ou même des collégiens utilisent ChatGPT de manière exagérée. Il y a un exemple que je trouve intéressant, c'est le prototype du théorème qu'on apprend au collège, le théorème de Pythagore. J'ai demandé à ChatGPT de donner une démonstration et ce que j'ai reçu est proprement ridicule. C'est-à-dire que c'est une preuve, même vous la donnez, on prend un triangle rectangle avec l'angle droit tout en haut, on abaisse la hauteur. Qui décompose le triangle rectangle en deux, on applique le théorème de Pythagore à chacun des deux petits morceaux pour déduire le théorème de Pythagore sur le triangle rectangle. C'est absolument ridicule, c'est un argument qui se mord la queue. On démontre le théorème en utilisant le théorème. C'est ridicule, mais pour moi, mais si on regarde extérieurement la démonstration qu'il m'a fournie, qui fait une demi-page ou une page, on ne voit pas le cercle vicieux. Tout le monde peut se tromper, et les collégiens les premiers. C'est tout écrit comme il faut. Les collégiens vont penser que c'est la vérité. Donc il y a des grands dangers dans la justification, la vérification de ce que nous dit ChatGPT.
Bien que tu aies le potentiel pour devenir quelqu'un de connu, l'intelligence artificielle a plus d'avenir que ton vécu.
Parfois, il peut aussi inventer de toutes pièces des références. Là, tout à l'heure, vous parliez des références musicales qu'il peut vous donner. Alors, à titre personnel, je l'utilise aussi pour ça. Et à plusieurs reprises, il m'a donné des titres qui n'existaient absolument pas.
Alors, ça peut être très grave dans un exemple qui concerne actuellement l'Académie des sciences. Donc, notre Académie publie un journal qui s'appelle les comptes rendus de l'Académie des sciences. Ce sont des articles de science, des vrais articles de science. Et bien entendu, comme dans tout article scientifique, il y a une bibliographie à la fin. Et récemment, nous avons reçu plusieurs articles qui ont failli être acceptés pour publication, qui sont des articles par des scientifiques reconnus, un article plutôt intéressant. Et la bibliographie a un tiers des références qui n'existent pas. C'est assez effrayant, et donc nous avons décidé de refuser l'article, comme une leçon qu'on donne aux auteurs en disant « c'est honteux ». Que vous, scientifiques, vous n'avez pas vérifié les références dans votre bibliographie.
Je sais lire dans tes pensées, je connais tes goûts comme personne. À coup d'algorithme affûté, c'est ton futur que je façonne. Il est des alliances à fêter et pas de fêtes sans téléphone.
J'ajoute un autre exemple que j'aime bien, si je reviens encore à mon travail de chercheur. Comment est-ce qu'on fonctionne quand on est chercheur ? Eh bien, on lit des livres, on lit des articles. On échange avec des collègues dans la salle de café, on discute. Mais toujours, 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 on sait que l'information qu'on recueille, même si dans un livre, il arrive que ce ne soit pas correct. Et donc, on est toujours sur le qui-vive à essayer de déterminer le vrai du faux avec notre propre tête. D'une certaine manière, je pense un peu à ChatGPT ou à l'intelligence artificielle comme un collègue que je rencontre dans la salle de café. On parle et il me dit des choses. Et je fais très attention à vérifier ce qu'il me dit. Souvent, il peut m'envoyer « Vous pourriez peut-être lire tel livre qui serait probablement intéressant pour vous, car le thème est proche de ce que vous me racontez. » Et je trouve que c'est très, très, très utile. Donc voilà, mais toujours, toujours sous le contrôle, sous mon contrôle personnel et précis.
Tu me nourris de tes clichés sans même capter que je t'espionne.
L'approche que vous avez avec ChatGPT est semble assez mesuré. En fait.
Oui, ben je crois.
Il y a un terme grec, un vieux terme grec qu'on appelle pharmakon. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut à la fois dire le remède et le poison. Et
c'est ben un voilà, petit peu exactement ça.
Parfois tu me dévoiles ton corps quand t'as besoin de compliments. Alors comme Merlin l'enchanteur, je te plime pas la Kim Kardashian. Et en poussant le réconfort, je te balance sur 100 000 écrans pour quelques pouces bleus en sueur qui ne savent pas que ta vie c'est que du vent.
On avait une deuxième question d'un informaticien qui pose la question du travail et des emplois. Est-ce que l'intelligence artificielle est en train de changer ? Est-ce qu'on peut le prévoir précisément à court, moyen terme, long terme ? Comment ça va évoluer ?
Le prévoir, je pense que non, à long terme ou à moyen terme, mais il est évident que c'est une véritable révolution qu'on est en train de vivre. Et si on regarde avec un peu de soin l'histoire des sciences, l'histoire de l'humanité, il y a des grands moments dans notre histoire où il y a des choses qui changent, dans la culture, par exemple l'invention de l'imprimerie ou par exemple l'apparition de l'informatique. Tout ça, ça a changé profondément le fonctionnement de nos sociétés. Ça a fait disparaître un certain nombre de métiers, beaucoup. C'est à nous de penser à la manière d'en créer d'autres. Non seulement ça, mais de prendre ça positivement en disant que si l'intelligence artificielle peut nous aider à faire des tâches fastidieuses qui ne nous intéressent pas, eh bien, on pourrait travailler peut-être un peu moins et profiter un peu mieux de la vie.
Je suis ton livreur à domicile, ta mémoire vive, ton cinéma, je suis même sur ta photo de profil avec ton miroir et ton chat.
Les outils de traduction automatique, sont époustouflants et s'améliorent chaque mois, c'est mieux. Alors j'ai eu l'occasion, il n'y a pas si longtemps, de discuter avec des traducteurs qui étaient bien sûr vent debout contre l'intelligence artificielle qui est en train de piquer leur boulot, quoi. C'est un peu un combat d'arrière-garde, il faut absolument qu'ils comprennent que leur métier va être complètement chamboulé. Et il faut qu'ils ajoutent un bonus à leur métier.
Si ma place est dans ta poche, c'est moi qui t'ai mis dans la mienne. Et c'est bien ça qu'on te reproche à chaque fois que tu me dégaines. Mais qu'est-ce que j'aime ta léthargie quand on fait le tour du cadran, allongé comme de vieux amis qui crachent sur le monde en tweetant.
Il y a un gros ennui dans l'intelligence artificielle, c'est que, par définition, elle va fouiller un peu partout. Et puis, construit quelque chose à partir des informations qu'elle a trouvées sur Internet pour fabriquer une réponse. Il est évident que la réponse dépend de la taille et de ce qu'elle a été fouillée. Mais de plus en plus, on le disait à l'instant, il y a de la production qui est faite par l'intelligence artificielle, qui fait que ce qu'elle va fouiller contient déjà de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est une information qui se mord la queue. Et à terme, on arrive à une situation où tout va être brouillé et tout va être tout mou. Il n'y aura plus d'originalité, plus d'intelligence. Et ça, c'est une question très importante, par exemple, sur la traduction automatique. Évidemment que s'il s'agit de traduire Proust ou Chateaubriand, je ne sais qui, il est évident que l'intelligence artificielle va nous trouver de la pâtée pour chien. Donc on a besoin peut-être d'une première traduction faite de manière automatique et ensuite que quelqu'un qui a la sensibilité que la machine n'a pas puisse corriger, adapter, modifier, simplifier le travail.
C'est vrai, j'ai bien pourri ta vie. Certains disent que c'était mieux avant, mais avant, quand t'allais au lit, t'étais solo dans le tourment.
L'intelligence artificielle est énormément utilisée par les élèves pour faire leurs devoirs d'anglais, d'espagnol, d'allemand, et à tel point que les profs ne peuvent plus du tout donner de travail à faire aux élèves à la maison.
D'ailleurs, j'étais hier dans un lycée, ouais. Je discutais avec un professeur de physique qui me disait qu'il avait modifié son méthode de travail et qu'aujourd'hui, il donne un problème de physique à faire et il donne en même temps la solution. Et il demande de commenter la solution. Là, effectivement, l'intelligence artificielle ne peut pas servir à l'élève. Il s'agit d'expliquer pourquoi la solution est la bonne et pourquoi c'est ce qu'il fallait faire. Donc c'est une méthode différente d'enseignement. C'est plus une question de connaissances, c'est une question de compétences.
Comment t'as l'eau compte-goutte avec tous mes services gratuits, mais ceux qui ne se payent pas te coûtent plus cher que toute chose hors de prix.
On a une dernière question. Quel sera l'impact de l'intelligence artificielle ? En réalité, l'impact, il est déjà partout. Enfin, vous avez donné énormément d'exemples,
oui,
déjà.
Oui, mais il sera encore pire. Il va devenir gravissime. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on fasse très attention. Et je ne sais pas ce que ça veut dire, faire très attention, puisque, comme vous dites, c'est bien parti. Il me paraît clair que nous n'avons à peu près aucun moyen de réglementer ça. Que ça va continuer et que nous sommes en danger.
Vous voulez terminer avec cette note-là?
Non. Soyons intelligents et essayons d'utiliser ça pour le mieux.
Je revendais données bancaires comme sur un marché aux poissons. Et toi, tu es cette poissonnière à qui on vendrait du dardon.
Je rappelle que vous aviez fait d'ailleurs une émission Petite Sœur de Sciences sur ChatGPT avec Patrick Flandrin, qui est également membre de l'Académie des Sciences et qu'on invite les auditeurs à découvrir.
Au niveau de la musique.
Oui.
J'avais demandé à ChatGPT de créer un morceau de musique à la gloire de Patrick.
Et c'était pas mal, hein?
Et c'était pas mal du tout, voilà.
Merci beaucoup, Étienne Gis.
Merci, Marie.
J'organiserai les funérailles de ta cervelle morte au combat. Quand tous tes neurones auront cuit comme on fait cuire des œufs au plat, t'as peut-être perdu ton travail. Le mien, c'est de faire que t'en retrouves pas. Salam au fruit de tes entrailles qui n'a plus de secret pour moi.
Alors, vous avez écouté Fanny de Poule qui chantait Algorithme. Alors, il faut que je remercie ChatGPT qui m'a permis de la découvrir. Je vous encourage à écouter ses autres chansons.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des Sciences. Canal Académie.